Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous recommande quelques trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné pour la deuxième fois sur cette session de 4 épisodes de mon comparse Pascal Mabille. Comment vas-tu Pascal ?
Bonjour Patrick, ça va très très bien comme à chaque fois qu'on se retrouve bien sûr.
Oh mais c'est pas parce qu'on se retrouve, hein, c'est bien ça. Il y a une cause à effet là-dedans.
Attends, je suis le plus heureux.
Ah, hein. Oh, merveilleux.
Magnifique. Et c'est sincère. Non mais c'est vrai.
C'est gentil, c'est gentil. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous êtes heureux de nous retrouver. Si ça n'est pas le cas, je ne suis pas certain de savoir pourquoi vous écoutez l'émission. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Bon allez, arrête tes conneries, on s'en fout de ce que tu as à dire. Donne-nous tes recommandations et après, voilà. » En même temps, ces gens-là, vous pouvez regarder les notes de l'émission et vous avez les recommandations tout de suite. Donc, tout le monde est content au final. C'est la merveille du podcast. Bon, on est heureux de vous retrouver en tout cas. On a deux recommandations qui sont là encore, je pense, assez positives à vous faire aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite avec un livre d'un auteur que certains d'entre vous connaîtront certainement, puisque j'en parle régulièrement dans Positron. À vrai dire, presque à chaque fois qu'il sort un livre, je le recommande. Et c'est à la fois hyper sincère et hyper intéressé, parce que pour la partie intéressée, c'est un ami à moi qui écrit ça, un très bon ami d'enfance. Et c'est à la fois sincère parce qu'ils sont vraiment excellents, ces livres. Vous vous en souviendrez donc, c'est Gabriel Katz qui était présent dans l'émission une fois. Gabriel Katz qui a écrit « Le Puits des Mémoires » et d'autres livres d'Heroic Fantasy. Il y avait « La Maîtresse de Guerre », il y a « Eternia » qui est sa dernière série, enfin en deux livres, qui est aussi un vrai succès. Et là, son dernier livre, en fait, il change complètement de registre. C'est un livre qui s'appelle « N'oublie pas mon petit soulier ». Qui est une sorte de thriller qui est sorti il y a quelques semaines et qui est là encore, enfin franchement, Gabriel m'étonne toujours parce qu'il réussit à faire quelque chose de super facile à lire, de toujours captivant, quel que soit le domaine dans lequel il écrit, et à la fois de très drôle et de... Enfin, c'est tellement humoristique que ça passe tout seul. Franchement, vraiment, je mens pas. En lisant les deux premiers chapitres de N'oublie pas mon petit soulier, j'étais mort de rire à chaque page. Franchement. Et pourtant, c'est un film, j'allais dire. C'est très cinématique, mais c'est un livre qui est un vrai thriller d'action ou palpitant, où il se passe des trucs inattendus, etc. D'ailleurs, j'aimerais faire une remarque. Si vous êtes intéressé par le livre, n'allez rien lire dessus. C'est ironique. Je vais vous dire un tout petit peu de l'histoire, mais même le quatrième de couve, les reviews, j'en ai lu quelques-unes qui sont souvent très positives, mais il spoil plein de parties du livre qui sont tellement dommages de savoir avant de commencer à le lire. Moi, je comprends pas comment les gens qui font des reviews de livres font ces reviews de livres, quoi. C'est presque, on a l'impression qu'ils racontent tout le livre pour que les gens qui voudraient en parler puissent en parler sans l'avoir lu. C'est terrifiant. Donc, en particulier dans ce milieu où il y a beaucoup de production. Donc, bref, peu importe. Le livre, c'est l'histoire d'un acteur raté. Qui doit en fait, pour payer ses factures, jouer le Père Noël dans les grands magasins. Et donc on commence, le livre s'ouvre sur ce type-là, qui est un acteur, un beau gosse, qui joue le Père Noël dans les grands magasins, qui a pas envie d'être là, qui s'emmerde, mais qui le fait quand même parce qu'il faut. Et donc toute l'ironie et le cynisme qu'on connaît à Gabriel Katz ressort dans ses premiers chapitres. Et arrive devant lui une fille un petit peu plus jeune que lui, qui doit avoir 20-25 ans, qu'il trouve magnifique et qui est une sorte de gosse de riche, on sait pas trop, elle vient faire les magasins et elle a un garde du corps, une armoire à glace qui l'accompagne. Et donc il sent que bon, ça se trouve c'est la nana d'un mec un petit peu puissant ou on sait pas quoi, ou une actrice ou on sait pas très bien, et il se dit bon, celle-là il faut que je l'attrape, et à partir de là il se passe plein de trucs et je veux pas vous en dire plus parce que je veux pas justement spoiler tout ce qui se passe, et c'est absolument captivant. On est pris dans une sorte de montagne russe d'aventure presque ordinaire et puis pas ordinaire, et puis enfin voilà, je veux pas spoiler donc j'en dis pas plus. C'est Gabriel Katz. Si vous avez lu ses livres d'Heroic Fantasy, je pense que vous connaissez le personnage. Je pense que vous serez séduit par le style de N'oublie pas mon petit soulier aussi. Si vous n'avez pas lu ses livres d'Heroic Fantasy, eh ben c'est aussi l'occasion de le découvrir, parce que vous disiez bon, l'Heroic Fantasy, même si son Heroic Fantasy est très légère, il y a presque pas de magie, presque pas de monstres, mais vous vous dites bon, c'est pas trop pour moi. Là, c'est un thriller, une sorte de film d'action en fait, en livre. Vous pouvez tester aussi, franchement un super bouquin que je recommande vraiment à tout le monde, que vous soyez fan ou pas fan, peu importe, c'est un livre que je recommanderais à tout le monde. Je rappelle que ça s'appelle N'oublie pas mon petit soulier, c'est disponible depuis quelques semaines en version électronique, papier, tout ça, et je pense qu'il vous plaira.
Eh ben écoute, tu m'as donné vraiment envie, parce que j'ai commencé le Puits des Mémoires, j'en suis à la traque. D'accord. Et je suite à tes conseils d'ailleurs, et j'avoue que je suis fan de son style.
Ouais, c'est très particulier, c'est... hein.
Ouais, mais je dirais c'est très moderne, c'est je trouve c'est le bon je sais que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est le bon mélange entre le style anglo-saxon qui se veut très direct, très efficace, et le style français qui est dans l'humour, dans la description. Enfin, je trouve il a vraiment un style très très intéressant, et j'ai hâte de regarder ça dans un autre domaine que l'Heroic Fantasy.
C'est vrai qu'il fait c'est pas du tout ronflant, c'est pas de la littérature chiante comme on peut en avoir un petit peu trop, je dirais, en France, ou de la déprime, ou du enfin bon. Là, c'est effectivement simple, direct, et en même temps, c'est élégant.
Oui,
je sais pas comment décrire, mais
ouais. Bah, il a réussi à trouver une bonne formule, hein, ouais. Une bonne formule d'écriture, et ce n'est pas une partie de jeu de rôle, ou c'est pas votre histoire, hein,
cette fois-ci. Non, bah non,
d'accord,
pas du tout.
Okay. Tu n'as pas fait Père Noël à une époque de ta vie.
Non, pas encore. Ça viendra peut-être si les podcasts ne marchent plus trop bien. Peut-être que je devrais aller faire le Père Noël au Galerie Lafayette, mais on n'en est pas encore là. Donc voilà, non, ça c'est complètement original, comme la plupart des livres, enfin tous ceux qui ont suivi le Puits des Mémoires n'avaient aucun rapport avec nos jeux de rôle. Bon, donc voilà pour N'oublie pas mon petit soulier. De quoi nous parles-tu, Pascal? Et je suis hyper excité, j'attends parce que je veux en parler aussi.
Écoute, je te parle d'un petit film indépendant australien autour de l'automobile. Non, mais c'est quasiment ça en plus. Je vais vous parler de Mad Max Fury Roads, qui est un film
au singulier.
Ah, excuse-moi, c'est mon côté. J'ai un très mauvais accent. J'ai tendance à mettre des S à la fin de tous les mots. Voilà, Mad Max Fury Road, qui est un film de George Miller, un Australien, un réalisateur complètement fou. Pour faire simple, c'est un film post-apocalyptique et c'est une course-poursuite gigantesque pendant 2 heures de film. Bon, si je devais résumer l'histoire, c'est très très simple. Je ne vais pas tout vous dire pour vous laisser la surprise, mais disons que Max est un... Alors, Max est quelqu'un qui a un passé trouble, avec beaucoup de mauvais souvenirs. Il va se retrouver embarqué dans...
c'est difficile de ne pas spoiler, effectivement.
Ouais, voilà. Disons qu'il va se retrouver au milieu d'une histoire qui se passe
Dans, bah...
c'est très très dur de raconter le scénario de Mad Max, mais disons
ouais.
que c'est...
Bah, en fait, disons que... bon, avant tout, déjà, c'est la suite. Enfin, la suite. C'est
oui,
le quatrième de la série des Mad Max,
voilà.
Qui a été initié par George Miller il y a des années de ça. Enfin, je pense que tout le monde connaît un petit peu Mad Max, donc c'est pas non plus la peine de décrire l'historique du truc. Mais c'est un monde post-apocalyptique. On sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en gros, il y a plus de pétrole et donc le monde est descendu dans le chaos. C'est la série qui a créé le style post-apocalyptique qu'on retrouve ailleurs dans des jeux vidéo, dans des films. Enfin, c'est vraiment toute cette esthétique a été créée par Mad Max. Et ce qui est intéressant par Fury Road, c'est justement la manière dont il la mise en forme de tout ça. Enfin, là, je te laisse le décrire, mais
c'est là. D'abord c'est splendide parce que George Miller a travaille énormément sur les effets réels. Il y a très peu d'images de synthèse. Donc, c'est un spectacle éblouissant parce que c'est un peu à l'ancienne, on va dire très années 80. C'est-à-dire des cascades, des cascadeurs, des situations, une chorégraphie, des scènes qui sont vraiment spectaculaires. Et puis, il y a un rythme très particulier qui fait que ça démarre et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin, quoi.
Ouais.
Et on est embarqué là-dedans, on a la sensation d'être dans la voiture et de vivre ça à tombeau ouvert, c'est complètement fou. Et c'est vrai que c'est très difficile de parler du scénario parce que souvent c'est un des reproches qu'on fait à Mad Max et en tout cas au film de George Miller et à ces quatre films, c'est que souvent le scénario se résume sur un ticket de métro, quoi. C'est plus et c'est là où j'adore Mad Max, c'est qu'on a la sensation de débarquer là et on est témoin d'une situation et on vient pas tout nous expliquer en fait. C'est à nous de suivre ce qui se passe et de se dire ah bah oui d'accord, donc s'il y a ça il y a ça. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que il y a pas c'est pas un film classique dans sa structure. C'est tu suis l'histoire et en même temps tu découvres un peuple comme une sorte de documentaire post-apocalyptique. Il y a vraiment cette idée de
ouais,
voyage,
non,
quoi.
C'est vraiment pour moi l'un des attraits du film, effectivement, c'est que oui, l'histoire tient sur un ticket de métro, c'est vrai, il y a assez peu finalement dans l'histoire, mais l'histoire n'est pas racontée de manière classique. Il y a personne qui va vous dire alors là j'étais dans telle situation et puis j'ai décidé que ceci et puis je suis parti pour faire ça. C'est ni dans la narration bien sûr, mais ni non plus dans la construction du film. On vous dit ça. Il y a simplement, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont vu, donc beaucoup d'entre vous sauront de quoi on parle. Mais si vous l'avez pas vu et si vous n'êtes pas totalement, complètement hermétique à l'idée d'un film post-apocalyptique, il faut vraiment le voir parce que c'est un film unique, c'est un film important pour l'histoire du cinéma parce que à aucun moment le film ne vous prend par la main. Il va simplement suivre le fil de ce que font les personnages, mais les motivations qui les animent, vous allez devoir les comprendre par vous-même. Le contexte dans lequel ils évoluent, vous allez le comprendre par vous-même. Et c'est pas qu'il les cache, le film ne les cache à aucun moment, mais simplement la manière dont il vous en informe, c'est une phrase au détour d'une scène qui ne parle pas de ce sujet en particulier. C'est une image qui va vous expliquer énormément sur la culture qui s'est développée après la fin du monde, en quelque sorte. Je vais donner un exemple qui, à mon sens, est assez parlant. Il y a donc le méchant est un tyran qui...
Immortal Joe.
Voilà, Immortal Joe. C'est un tyran qui opprime son peuple et qui s'approprie toutes les richesses de la région. Et on voit qu'il y a effectivement un peuple qui est très pauvre et qui est
complètement soumis.
Voilà, complètement soumis. Et lui, il est dans sa tour de pierre. Et on voit à un moment, il passe dans une pièce et on voit dans le fond de la pièce des femmes, peut-être 5 ou 10 femmes, qui sont presque obèses et qui ont sur les seins des machines pour extraire le lait de qu'elles produisent. Et on voit que ça l'emmagasine dans des bonbonnes, en fait. Et cette image, qui est un petit peu choquante, nous fait comprendre que, en fait, ils produisent du lait humain dont ils vont se servir, et c'est à la fois tordu, logique, bizarre, choquant, intéressant, et il y a plein de trucs comme ça où en une image, on va comprendre quelque chose sur cette société qui s'est développée. Il y en a plein. Là, c'est un exemple parmi des dizaines, vraiment.
Presque dans chaque plan, il y a un élément qui décrit exactement où on se situe et ce qui est fort. Mais bon, George Miller a un passé particulier parce qu'à la base, il est médecin. Donc, il a déjà une approche très... c'est ça qui est fou dans Mad Max, je trouve. C'est le réalisme de la situation qui est complètement fantastique. Il est très précis, très méticuleux, et c'est pour ça, comme tu le disais, Patrick, on ressent, on ne peut pas ne pas être ému par ce qu'on voit à l'écran, parce qu'il y a, ça fait vrai. On se dit, waouh, ça pourrait se passer comme ça. Et ça, c'est aussi parce que c'est un réalisateur qui est très précis, très méticuleux et qui fait attention à tout ça. Il y a rien de loufoque, et c'est formidable de voir un film complètement, un film d'action complètement dingue. Qui soit aussi cohérent, ancré en fait. dans le réalisme, ouais, et cohérent. Et c'est vrai que c'est même ce qui est très intéressant aussi. Si vous avez hésité à aller le voir, je pense qu'il faut le voir d'abord parce que vous n'avez pas besoin d'avoir vu les trois premiers parce que c'est une sorte de reboot remake. On ne sait pas trop. C'est assez ouais, c'est étrange. Presque,
en fait, oui, c'est complètement indépendant, quoi. Ça
oui, complètement.
Presque aucun rapport avec les autres, quoi.
Et ensuite, d'abord, moi, ce que je trouve formidable chez George Miller, c'est que ça devient très rare, mais personne n'est formaté dans le film. C'est que vous allez voir des physiques qu'on ne voit plus au cinéma. C'est dingue, des têtes qui ne passent plus les castings. Donc, c'est vraiment impressionnant à l'écran de voir toutes ces gueules différentes, le réalisme des situations. Et puis, il y a des idées de génie. Je vous raconte pas tout, mais il y a un moment, il y a un guitariste qui crache des flammes. Et on se dit, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Et le personnage est d'un badass.
C'est marrant parce que quand je l'ai vu la première fois, j'ai vu le film 3 ou 4 fois au cinéma. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, c'est trop. C'est tellement phallique, c'est tellement clairement. Mais en fait, il en joue et il y en a pour tout le monde. Et c'est la violence de ce monde qui veut ça. Et ça passe complètement dans cet univers, quoi. Quand je suis ressorti la première fois, j'avais pas compris la portée du film. C'est en y réfléchissant ensuite, les heures et les jours qui ont suivi, où je me suis dit, ah ouais, non, mais il faudrait que je le revoie pour vraiment comprendre tout ce que j'ai vu, en fait. Et il y a une telle esthétique, c'est tellement beau, il y a des scènes, mais d'une beauté invraisemblable. Enfin, il mêle les effets, les practical effects, les effets faits en vrai, et les effets en images de synthèse d'une manière tellement harmonieuse, à aucun moment on voit ce qui se passe et ce qui se passe pas. Ce qui passe ou ce qui passe pas par des effets d'image de synthèse, et puis il y a toute cette mythologie de la route, toute cette mythologie de la voiture, et
du voyage aussi, puisque c'est toujours cette envie d'aller chercher ailleurs le bonheur, quoi.
C'est tellement plein de symboles surtout, et puis il y a des formules, le fait de dire par exemple I'm witness me, tu vois, ça c'est un truc dont tout le monde se souviendra de sa vie, enfin les gens qui l'ont vu peuvent en être témoins en entendant ça, ils se disent quand je dis maintenant witness me, eux ils se voient tous, ils s'imaginent tous en pointant quelque chose du doigt et en criant witness me. Tu vois, c'est
a
ça
glory day.
Ouais. What a glorious day, a beautiful day. Et tu te dis I'm gonna die chrome and shiny on the road to Valhalla. Bon, voilà.
Ouais, c'est un post-apo qui fait réfléchir parce qu'on se dit, c'est comme si toutes les cultures avaient été mélangées dans un bocal et qu'après ils avaient essayé de faire une sorte de suite logique à culturellement tout est mélangé, c'est un gros bazar, c'est n'importe quoi et c'est d'une cohérence, c'est très intéressant. Je trouve même sociologiquement, je trouve c'est ça qui est fort, c'est que c'est un film où on passe un super moment avec des pop-corns. Et en même temps, c'est loin d'être simplement un film d'action. Et ça, c'est pour moi, c'est le cinéma réussi, c'est quand il y a vraiment toutes ces couches.
Ah, je crois que maintenant je dois le revoir.
Moi
Là, c'est
aussi,
pas
en fait,
possible.
je suis en train de me dire, je vais peut-être le remater après l'émission.
Bon, écoutez, si on vous a pas donné envie avec tout ça, je crois que c'est pas
Ah
possible.
oui, j'ai juste oublié de préciser quand même, parce que c'est vrai qu'on les oublie, ils sont tellement effacés par le film, mais pourtant ils sont exceptionnels. C'est
Ah oui.
Tom Hardy qui joue Max, qui joue Max, qui vous avez peut-être vu dans le dernier Batman, qui avait joué dans un film qui s'appelait Bronson. C'est un mec bien foutu, beau gosse, et il parle pas beaucoup, donc je pense qu'il doit avoir même pas une page de dialogue. Et à côté de lui se trouve Charlize Theron, que
Oh,
vous avez pu voir dans
sublime,
Prometheus, dans
lumineuse.
Monster, qui est exceptionnel. Et le jeu d'acteur, vraiment, c'est un réalisateur qui fait briller ses acteurs, et c'est formidable.
C'est incroyable comme justement Tom Hardy réussit à faire passer l'état d'esprit de Max en disant rien. Effectivement, pendant, il parle un tout petit peu en narration au début, il dit quelques mots, et puis après, c'est presque que des grognements qu'il
Oui, c'est
fait.
ça, ouais.
Et pourtant, tu comprends exactement ce qu'il est, ce qui se passe dans sa tête. Charlize Theron, sublime, le personnage est hyper intéressant. Et puis c'est émouvant d'avoir aussi le Immortan Joe, justement, qui est joué par le, je me
Le
souviens
méchant
plus
du
son nom,
premier Mad
mais
Max,
voilà, c'est
oui.
ça. On peut presque se dire que cet Immortan Joe pourrait être le méchant du premier s'il avait vécu quelques années dans, enfin quelques dizaines d'années dans cet univers et s'il n'était pas mort dans le premier. Spoiler, pardon, mais
Ah oui, attends.
bon, en même temps, c'est un film qui a 30 ou 40 ans. Je crois qu'on
Oui, et
peut.
puis je pense que ça a eu tellement de succès qu'ils vont continuer l'histoire, donc.
Ouais, non, mais c'est sûr. Ils sont en fait, effectivement en train d'hésiter entre deux scripts pour la suite de Mad Max Fury Road. Et en même temps, ça sera pas forcément une suite. C'est vraiment Fury Road, c'est vraiment, ça pourrait s'appeler Furiosa, A Mad Max Adventure, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ça c'est complètement. Et ça pourrait être l'histoire telle qu'elle est racontée ensuite à d'autres personnes. Et on a, bon, bref, je pourrais en parler pendant des heures. Si vous ne l'aviez pas vu. Et que vous le voyez suite à cette recommandation, serait vraiment très curieux d'entendre ce que vous en pensez. Donc venez nous dire sur les notes de l'émission, venez nous en parler, dites-nous ce que vous en avez pensé. Je serais vraiment vraiment intéressé d'avoir votre avis. Donc voilà, le message est passé. Merci beaucoup Pascal. On clôture cette émission en rappelant qu'on vous a parlé de N'oublie pas mon petit soulier, un roman pour tout le monde de Gabriel Katz et de Mad Max Fury Road, le film sublime de George Miller. Où peut-on te retrouver sur Internet pour te dire ce qu'on a pensé de ta recommandation de Mad Max?
Oui, eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Pascal Mabille, tout attaché, sans E à Pascal, deux L à Mabille, sur Instagram aussi, Pascal Mabille, et puis en podcast, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas, pendant 5 minutes en temps réel avec mon compagnon Bob le Feutre.
Magnifique, merci beaucoup monsieur. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver les notes de cette émission, les autres épisodes de Positron et plein d'autres podcasts sur frenchspin.fr. Je vous encourage à aller y faire un tour. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Salut!
Et pour conclure sur Fury Road, on pouvait pas ne pas vous parler un tout petit peu de la musique quand même. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu. Non, mais c'est pas possible. Attends, on va mettre,
C'est
je vais
vrai.
trouver tout de suite la musique de Mad Max Fury Road et je vais passer, c'est où? C'est Brothers in Arms, je crois. Hop, et normalement, vous entendez ceci. Si là vous n'avez pas envie de vous lever et de partir sur la route de la gloire,
Ouais.
franchement, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous.
Il faut préciser que la musique est justifiée dans le film, puisqu'il y a un orchestre qui joue pendant le film.
Ouais, exactement. Et c'est Junkie XL qui a fait la musique, non?
Oui, j'aime beaucoup.
Ouais, très très bien.
Et je me demande si c'est pas sa première BO.
C'est. Non, je crois qu'il en a fait d'autres. Je suis plus sûr. Ah là là, ça c'est Brothers in Arms, mais c'est le titre. Bon allez, je baisse la musique et on se quitte pour de vrai cette fois. Don't